Bonjour à toutes et à tous, ici Fanny. Bienvenue, bienvenue dans cet audio consacré à creuser plus en profondeur le premier thème de ce cycle lunaire de janvier concernant la connexion avec les autres êtres qui vivent avec nous sur notre belle planète. Alors, j'espère que vous avez pu vous approprier le compte de janvier, soit par une lecture de votre côté, ou alors par l'audio que je vous ai proposé avec une écoute attentive, bien entendu, ou même grâce aux deux, en mixant ensemble lecture et écoute, hein, pourquoi pas. Si ce n'est pas fait, je vous invite vraiment à retourner dans la page précédente, car je vais me servir du compte comme point de départ à notre réflexion et y faire de nombreuses références. Le conte commence avec celle que l'on nommera celle qui parle à ses proches et qui discute avec le renard pour comprendre sa médecine. Alors, la médecine est la façon dont est appelée la manière dont un animal de pouvoir, ou un végétal par exemple, donne son enseignement dans la culture amérindienne. Cette façon-là de connaître et de comprendre les sagesses célestes, philosophiques, etc., etc., en observant et tirant des leçons de ce que nous observons ou entendons dans notre environnement naturel. Cette façon de voir n'est bien évidemment pas exclusive à la culture amérindienne, par exemple. Il y a aussi Hermès l'Égyptien, né trois fois, hein, que l'on appelle Hermès Trismégiste, qui explique notamment que tout ce qui est en haut est ce qui est en bas, avec la formule bien connue « as above, as below ». C'est une attitude qui a été retrouvée, puis véhiculée jusqu'à nos jours, dans différentes traditions qu'on appelle animistes, c'est-à-dire où tout ce qui est en vie possède une âme. Je rappelle ici qu'un élément en vie est défini par la science par une succession d'étapes qui sont la naissance, la croissance, la reproduction et la mort. On retrouve donc la vie dans les domaines végétal, animal et humain, puisqu'il y a bien naissance, croissance, phase de reproduction et mort pour chacun d'eux. Mais dans la culture amérindienne et puis la culture essénienne notamment, les éléments feu, terre, eau et air possèdent aussi un esprit, tout comme les pierres, tout comme les lieux. Alors que l'on voit bien ici que ce soit les éléments ou les cailloux ne remplissent plus les conditions scientifiques qui déterminent ce qui est en vie. Cette attitude-là de ce qui est en haut est pareil que ce qui est en bas a une autre difficulté d'approche, souvent à notre mental civilisé occidental, parce que voir dans les éléments de la terre, de la nature, y voir des vérités cosmiques et des vérités sur soi-même, c'est particulièrement renversant par l'aspect chrétien que revêt notre culture à la base, parce que pour le chrétien, la nature, le bas, la matière, était synonyme de mal et de péché, c'est-à-dire que le diable était associé avec la matière qui salissait l'âme. Pourquoi alors se mettre à quatre pattes et observer minutieusement pour en tirer des grandes vérités existentielles, alors que des universités de théologie le font très bien entre quatre murs, ou au temps du Christ, des rabbins dans leur temple, isolés du reste de leur environnement. Pour les chrétiens, nous avons vu que la matière, la nature et les êtres vivants sont tous issus de la chute finalement, et donc éloignés, voire carrément opposés à la voie spirituelle à emprunter pour retourner dans l'état d'élévation. Et quand je parle de notre culture chrétienne, c'est bien parce qu'elle est encore de nos jours à la base de beaucoup, beaucoup de conditionnements inconscients, peu importe pour cela que l'on soit soi-même croyant, pratiquant ou éduqué dans cette croyance dans nos jeunes années. Regarder la terre serait alors regarder tout simplement vers le bas et le péché du bas. Alors qu'ici, on a plutôt vraiment cette idée de tirer des sagesses et une médecine de ce qui est en bas. Donc on voit qu'il y a comme une opposition entre ces deux visions du monde, une opposition et une résistance qui peuvent être tout à fait inconscientes à pouvoir faire ce pas dans ce sens. Omram, qui est un ésotérique chrétien connu en France pour avoir pris la succession de Peter Deneuve, réussit à établir en fait un pont entre ces visions qui sont extrêmement opposées. Dans ses ouvrages, on peut voir qu'il fait coïncider des sagesses de la nature dans la nature avec les enseignements bibliques. Et en comparant ces savoirs naturels, il s'est rendu compte que ceux-ci se rapprochaient même de la façon dont Jésus parlait, c'est-à-dire en parabole, c'est-à-dire en métaphore. Donc c'est là où ma digression sur le christianisme voulait nous amener justement, c'est-à-dire qu'à la base même de cette tradition-là, Omram démontre que Jésus aussi disait les sagesses de la nature pour développer ses enseignements. Il le prouve très bien. Ce qui finit totalement de ne plus opposer ces deux façons de voir le monde. Donc si vous aviez des petites résistances liées à des conditionnements, et je le dis bien, inconscient, des résistances, des blocages dont vous n'avez absolument pas conscience, eh bien, n'hésitez pas à vous tourner un petit peu vers Omram, ou en tout cas, là je vous dis, rien n'est opposé dans cette version, dans cette façon de voir les choses, puisqu'on peut tout à fait les relier à cette façon d'obtenir de hautes connaissances en regardant le bas et puis ce qui apparaît vil et inintéressant. D'ailleurs, s'il fallait encore prouver que ces deux façons de voir coïncident, mais qu'elle est aussi à la base de beaucoup d'autres traditions, on va le voir dans le reste de cet audio, il ne me resterait qu'à vous citer l'alchimie, dont la base, c'est quand même le plomb, la première matière, la matière première, vile et noire, qui sera transformée en or, c'est-à-dire en métal précieux et solaire. Il y a aussi cette idée de noirceur, du noir, du mal et du bas vers la lumière solaire. On retrouve donc bien l'animisme partout sur les traditions de la planète et pas uniquement chez les Amérindiens. Par exemple, je peux encore vous citer la religion Shinto des Japonais qui honore les esprits contenus dans le vivant, mais aussi dans les lieux et dans les pierres. Et quand on retrouve comme ça une tradition un petit peu partout, hein, même dans des cultures qui nous semblent éloignées géographiquement ou en termes de principes de vie, c'est qu'on tient bel et bien à quelque chose. Donc ici, on se retrouve avec deux manières différentes d'approcher l'enseignement des 13 mères originelles. Soit dans la croyance qu'effectivement, les pierres et les animaux ont des esprits capables de communiquer avec nous, ou alors que la métaphore de leur comportement nous permet d'approcher des concepts spirituels. Peu importe ce que l'on choisit de croire ou de penser, notre façon intérieure d'aborder le monde qui nous entoure nous permet, dans ces deux cas, de tirer profit des sagesses qui permettent de nous guider vers une amélioration en fait, de notre façon de comprendre l'invisible, d'approcher du sens et de nous comprendre nous-mêmes en tant qu'être humain. Finalement, si on regarde avec une autre perspective, la mère de ce premier cycle ne nous demande qu'une chose, d'oser nous arrêter dans notre succession infernale d'activités à faire, donc de s'arrêter, de prendre le temps et de regarder la nature pour se saisir de ces paraboles. Puis, de trouver dans chacune de ces métaphores l'essence même du savoir. Ce qui est quelque part absolument magnifique parce que c'est à la fois très simple d'accès, mais aussi très puissant. Simple parce que bah, du coup, nous y avons tous accès à cette nature totalement disponible 24 heures sur 24. Il suffit simplement de prendre sa veste et de sortir de sa maison. Pas besoin de voir un prêtre ou un chaman, de trouver un rendez-vous, pas besoin d'argent pour verser l'aumône dans un temple, pas besoin de faire des études en théologie ou des stages de zen, le savoir spirituel serait donc là, à notre portée, directement. Commencer par cette révolution-là dans l'enseignement des 13 mères remet en place un petit peu toutes nos religions et c'est assez percutant et puissant. Parce que cela engage finalement notre expérimentation directe. Ce ne sont pas des mots qui sont lus, dictés par quelqu'un qui nous enseigne, cette façon d'apprendre là, ce sont par des sensations à obtenir, puis ensuite de chercher, d'analyser, d'interpréter dans un deuxième temps. Et en fait, tout ça, c'est vraiment une approche intégrative par le corps et le mental, ce qui est beaucoup, beaucoup plus complet. C'est beaucoup plus qu'une connaissance mentale uniquement. Mais c'est ce qui l'a fait basculer, ce qui l'a fait transformer en termes de sagesse, en impliquant le fait de la vivre, l'expérimenter par les perceptions du corps, donc en engageant la dimension du corps. Ce phénomène d'intégration-là va revenir, hein, ça reviendra même comme l'une des plus puissantes médecines dans la dernière mère de l'année, la 13e. Les neurosciences aussi ont révélé que, eh bien, nous apprenions de manière beaucoup plus efficace en faisant, en jouant, en testant et en impliquant notre corps et ses perceptions, nos cinq sens. C'est ce que fait justement celle qui parle à ses proches dans le conte. Hein. En rencontrant le mille-pattes, la première mère ne se contente pas de le regarder. Elle s'amuse, elle se prend en jeu à trouver elle-même une façon de coordonner ses deux pattes, de la même façon que l'animal le fait avec les siennes, les mille. Elle cherche, elle joue à tester, à trouver l'harmonie, à chercher donc l'harmonie par les gestes dans son corps. C'est donc l'intégration du savoir par le corps qui nous est démontrée. Elle nous dit aussi que ce n'est pas uniquement par nos cinq sens que nous pouvons apprendre, mais aussi grâce à notre intuition. Intuition qui, je vous le rappelle, lui fera un petit peu défaut dans ses tout débuts sur Terre d'ailleurs. Et c'est l'occasion de se poser la question, mais qu'est-ce que l'intuition? Donc, pour moi qui travaille avec l'intuition depuis plus d'une décennie, je peux vous affirmer qu'il s'agit bien plus que d'une voix à l'intérieur à laquelle il faut prêter attention. Ce sont des sensations corporelles, une indication, une information, par exemple, dans les rythmes des battements du cœur, des frissons, des émotions. C'est très subtil, hein, mais peu à peu, j'ai pu découvrir qu'il s'agit comme de micro-réponses musculaires, des espèces de résonances de muscles, mais aussi des tissus moteurs, comme celui de la pilosité. Et que ce soit au niveau des muscles de nos tripes, de notre muscle cœur, ou les muscles beaucoup plus longs comme celui du dos, il y a comme ça une résistance qui est transmise, un petit peu comme les tremblements qu'on peut avoir lors de la fatigue, mais beaucoup, beaucoup plus subtils. D'ailleurs, on sait très bien aujourd'hui que on utilise cette base de résonance dans tout ce qui est kinesthésie, donc l'information à des interrogations, à des questionnements par la réponse du corps, ou bien aussi de la radiesthésie. Ce sont les micro-tremblements des muscles de la main qui font bouger le pendule ou les baguettes de sourcier. Donc, je l'affirme là, oui, l'intuition vient du corps. Et on sait aussi que le corps possède une mémoire, hein. Par exemple, notre conscience va ailleurs lorsqu'on est sur la route, lorsque l'on conduit, et on ne sait pas ces 10 dernières minutes comment on a pu conduire, puisque notre conscience n'était pas là, et pourtant notre corps a agi, et il a agi comme il faut, puisqu'il n'y a pas eu d'accident. Mais prenons aussi l'exemple de faire du vélo. On peut lire là-dessus des tas de livres, mais ce n'est qu'en engageant finalement le corps et en faisant l'expérience directe que l'on peut comprendre ce que c'est de faire du vélo. Peu importe la physique qu'il y a derrière le vélo, la transmission du mouvement de la pédale aux roues, on n'est pas obligé de saisir les concepts. On n'est pas obligé de connaître les formules chimiques de la matière utilisée pour le pneu. Peu importe toute la science que l'on peut engranger sur le vélo, même si c'est très intéressant, seule l'expérience de faire, du faire, du coup du vélo, de monter les genoux, de trouver ce rythme, cette sensation d'équilibre-là dans le corps, va nous renseigner directement sur ce que réellement l'expérience du vélo. Pour coïncider un peu plus avec la thématique du conte, je vous propose de prendre un autre exemple, celui de la fourmi. Donc, Clairement, on ne va pas réussir à saisir la médecine de la fourmi, donc l'enseignement et la sagesse métaphorique de celle-ci, par des faits scientifiques, notamment d'échanges, vous savez, chimiques pour communiquer entre deux fourmis, ou même l'observation, parce qu'on ne va pas pouvoir rentrer dans une fourmilière. Il va nous falloir aller encore plus loin que la sensation et l'observation de la vue, passer dans cette imagination de prendre sa place et de vivre à sa place. Et donc de faire une certaine expérience par l'utilisation de l'imagination et de l'intuition. Pour essayer comme ça de toucher cette espèce de compréhension d'appartenance à l'univers de la fourmilière, d'être à sa place juste par le fait simplement d'exister. C'est une expérience que nous pouvons faire, par exemple, par les rêves conscients, les voyages chamaniques, qui peuvent justement être troublants de sensations et de mise en perspective. Ces médecines de la nature sont vraiment, vraiment un des piliers, des grands piliers du chamanisme, mais aussi de l'expérimentation par le corps. C'est pourquoi d'ailleurs dans ces cultures-là, il ne suffit pas d'étudier pour devenir chaman, par exemple. Il faut avoir vécu les enseignements et souvent c'est sur une très très grande période. C'est pas on est à Chamonix en 2 ans. Au contraire, hein, c'est quasiment toute une vie d'apprentissage. Il faut même avoir vécu l'expérience de la mort dans sa vie. On devient effectivement chaman uniquement après avoir vécu une expérience de mort, notamment après s'être fait mordre par un serpent qui offre sa médecine de transformation. Parce que, comme dans le cas des initiations égyptiennes notamment, avoir vécu l'expérience de la mort transforme l'être, notamment au niveau de l'ego, mais revenons à nos moutons. Regarder la nature pour apprendre le ciel a aussi ce côté très humble que je trouve important, c'est se baisser avant de monter. Toujours dans l'optique, regarde, ce qui est en haut est en bas, il y a vraiment cet acte aussi dans le mouvement de se baisser vers le bas pour pouvoir s'élever vers le haut. Et cela met en perspective les notions de pouvoir des uns sur les autres. Parce qu'en passant vers le bas, c'est-à-dire en s'abaissant finalement, eh bien on sent bien que l'être ne cherche pas dans ce mouvement-là à grandir vers le ciel dans le désir d'acquérir plus de pouvoir sur les autres. Celui qui veut le pouvoir ne s'abaissera jamais à prendre son après-midi à s'imaginer vivre une vie de fourmi ou à tester une nouvelle façon de marcher en regardant un mille-pattes, par exemple. Pas du tout. Et c'est aussi une pratique qui était faite dans les initiations, dans les temples égyptiens, toujours, j'y retourne, où parfois l'initié devait passer 1 an, 2 ans, simplement à nettoyer le carrelage. C'est pour introduire cette notion-là d'humilité. Et c'est cette humilité-là et ces expériences-là à nous mettre à la place de tous, que ce soit les plus petits ou les plus dangereux, qui nous amènent à apprendre à considérer tous les êtres vivants, tous. Même si à la base on fait cette recherche-là pour améliorer notre qualité de vie dans une quête de développement personnel, par exemple, c'est ce qui va arriver finalement au bout du compte. Peu à peu va s'installer une profonde considération pour ce qui nous entoure. C'est un effet de conséquence qui n'était donc pas forcément recherché, mais qui transforme notre façon de voir le monde. Comme dans une forêt ou une fourmilière, nous rendons compte que nous habitons une grande communauté planétaire et que nous avons en tant qu'espèce chacune notre place. Finalement, on apprend non seulement à reconnaître, mais aussi à respecter tous les êtres, qu'il s'agisse de plantes ou d'élémentaires. Nous comprenons par l'expérimentation que nous avons tous des besoins dans cette grande fourmilière-là planétaire et que ces besoins peuvent être contradictoires. Mais ce n'est pas grave, car même si nous vivons sur le même territoire Terre, nous sommes complémentaires. Et nous allons notamment le voir dans la partie dédiée au second thème sur les cycles et les rythmes. Regardons par exemple notre respiration. L'air chargé en gaz carbonique que nous expirons devient la base de l'inspiration des végétaux chlorophylliens. Ils inspirent ce qu'on expire, nous inspirons ce qu'ils expirent. Nous le savons depuis l'école. Mais est-ce qu'on arrive encore à s'extasier 2 minutes sur cette réalité complémentaire parfaite pour les êtres vivants, sur cette symbiose magnifique? Finalement, tout est là, tout est déjà là. Et pour l'enseignement de ce premier cycle, il suffit d'ouvrir les yeux sur ce qui est déjà. Et parce que tout est là, on peut déjà sentir comme ça une espèce de goût de paradis ou plus généralement de sensation de sacré, comme le vit finalement la première mère de l'année dans le conte de Jamie Sams. Cette sensation d'espèce de grand engrenage où tout a sa place et qui nous permet de faire une première expérience de rencontre avec ce sentiment-là d'unité dans le sacré. Eh bien, la mère de janvier nous explique qu'il nous faut commencer par là. C'est la toute première étape avant de regarder les 12 autres. Ce n'est pas un enseignement qui intervient en mars, en octobre, peu importe. C'est le tout premier compte, c'est le tout premier pas. C'est faire l'effort d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les sens sur ce qui est déjà là, disponible, accessible, simplement, et de faire en fait l'effort de voir au-delà, de profiter des multiples occasions de la vie et de notre environnement pour apprendre. Et donc, finalement, de laisser la vie nous apprendre par ces rencontres. Ainsi, lorsqu'une mouche vient se poser sur notre bras, est-ce qu'on peut désormais profiter de cette occasion pour apprendre en utilisant, en allumant notre curiosité? Comment est-ce qu'elle se déplace? Qu'est-ce qu'elle fait avec ses petites pattes qui se frottent comme ça? C'est donc bien un appel à réveiller notre curiosité endormie par nos vies quotidiennes et à commencer à apprendre un autre langage. C'est aussi la base des relations. Saisir le langage de l'autre, et c'est un langage symbolique et métaphorique de la vie qu'on nous propose maintenant d'apprendre. Et comme une langue étrangère, nous commençons à zéro, à partir de quasiment rien. C'est difficile, ça nous demande des efforts parce qu'on n'a pas tout le vocabulaire pour commencer. Mais si on continue de pratiquer à force, ce vocabulaire va s'acquérir parce qu'il est très simple finalement. Regardons par exemple à quoi nous pensons lorsque nous pensons à un ours. Un vrai ours, hein, j'entends pas une illusion d'ours à la Winnie l'ourson. Véritable, réel. On peut penser à sa force. On peut penser à son hibernation et « Ah, tiens, je ressens quelque chose dans le corps en pensant à l'hibernation. » Ça veut dire que je suis sur la bonne piste, même si c'est subtil. Est-ce que cela signifie que je dois, par exemple, prendre le temps d'hiberner à mon tour? De faire l'expérience de l'hibernation? Ce sera peut-être tout simplement parce que notre corps a besoin de repos, effectivement. Et que c'est peut-être pour saisir l'idée qu'on n'est pas assez attentif aux besoins de nos corps. Ça nous peut nous mettre sur la piste de savoir si on se coupe des ressentis en se divertissant coup sur coup par des sorties dans des bars, des séries Netflix à plus finir ou de la consommation de produits sucrés. Ou alors c'est peut-être une métaphore pour commencer un travail d'introspection et de recommencer à regarder comme ça ce qu'il se joue en soi. Là, au fond de notre grotte. Ou est-ce que, encore une autre possibilité, c'est de faire l'expérience de repos parce que, justement, il m'arrive de juger de façon négative ceux qui en ont plus besoin de repos que moi, parce qu'il est temps pour eux de commencer cette saison-là de repli intérieur pour, de leur côté, guérir quelque chose. Donc, oui, il va y avoir des tonnes de questionnements qui vont s'élever quand on va commencer à regarder les choses avec cette certaine curiosité-là. Et même si on peut se sentir un petit peu perdu au début, toutes ces questions sont très très intéressantes à explorer. Toutes, chaque essai permet de développer en fait ce vocabulaire-là et de muscler un petit peu plus notre intuition encore et encore. Mais surtout, ce soulèvement de questions infinies va créer une reliance avec l'être vivant en question, avec son espace de vie, avec son espace sacré. Cette curiosité-là entraîne une véritable cascade de conséquences bénéfiques pour se connaître mieux, mais aussi pour établir des liens de compassion qui va amener à un respect de façon très naturelle et un respect lui-même naturel. C'est dans ce respect sacré que nous pouvons avoir de plus en plus accès aux espaces sacrés des différents êtres, c'est-à-dire leur profondeur d'âme, leur zone de richesse et d'émerveillement. C'est un espace qui leur appartient et nous y entrons d'une façon justement très humble, parce que nous avons appris à devenir humbles. Et c'est là que tout se rejoint. Le processus lui-même permet d'obtenir cette finalité-là, très entendu, si on s'y plie, si on est OK pour le traverser. Et justement, au final, nous découvrons que la nature nous apporte ce dont nous avons besoin quand nous en avons besoin. Pas uniquement en termes d'abondance physique, comme on l'entend souvent, mais aussi lors d'un besoin de clarté, par exemple, ou parce qu'on a besoin de sens à un moment donné dans notre vie. Et peu à peu, ces petites synchronicités-là, ces hasards de rencontre de la vie, nous remettent en relation avec la dimension du merveilleux dans ce monde mondain. On n'a plus besoin de chercher ce merveilleux-là ailleurs que dans la réalité. Arrivé jusqu'ici, j'ai envie de vous parler de l'arbre, car c'est une part importante du premier conte et un symbole aussi qu'on retrouve fréquemment en alchimie, par exemple. Mais aussi parce que je l'ai peint et que j'ai une relation avec l'arbre, parce que oui, je l'ai peint de façon intuitive et il revenait comme ça dans de nombreuses toiles pour que je le comprenne. Pour Carl Gustav Jung, le célèbre psychanalyste, l'arbre, c'est tout simplement le symbole de l'individuation, c'est-à-dire du processus de devenir la personne que nous sommes appelés à devenir dans notre essence. C'est le chemin en fait de notre accomplissement. En ressentant l'arbre, en devenant arbre, en faisant l'expérience sensitive et corporelle de l'arbre dans le conte, celle qui parle à ses proches perçoit l'équilibre de l'arbre dans les dimensions verticales du ciel et de la terre. Mais pas seulement. C'est aussi l'exploration de tous les équilibres, de donner et recevoir, du féminin et du masculin, et tout cela en jouant à l'imitation. En jouant, elle accède en direct et dans les ressentis, aux symboles archétypaux véhiculés dans différentes initiations de multiples traditions à travers le monde. Rien que par le jeu. C'est un message incroyablement fort qui nous est invité à suivre dans ce tout premier enseignement en nous disant que la nature, donc elle-même, va devenir la source de notre initiation. Alors, oui, la nature, ben, elle est cruelle, brute et donc totale, parce que finalement, elle est telle qu'elle a été faite par le courant de la vie universelle. Et donc, oui, là où elle n'a pas été déformée par les humains, eh bien, ces messages n'ont pas été déformés non plus. Mais ça peut nous faire peur. Elle apparaît dans le conte comme un joyau brut de savoir, accessible totalement à tous. Et c'est cela finalement qui est peut-être le plus important ce mois-ci, c'est que la nature est présente et accessible à chacun d'entre nous. Ce mois-ci, je souhaite que vous puissiez vous mettre à l'écoute et à l'observation de toute la création et surtout de ce qui se présentera naturellement à vous. Pour vous y aider, vous trouverez dans la suite un questionnaire et des exercices qui iront tous dans ce sens. L'important sera bien d'établir le contact avec la nature dans cette perspective de curiosité joyeuse qui peut nous amener à ouvrir notre compassion à tous les êtres vivants de la nature, si ce n'est pas déjà fait pour nous. Au point d'apprendre à les voir comme des membres de notre famille. Je termine cet audio sur une note un petit peu plus personnelle parce que c'est ce premier conte qui m'a happée un petit peu totalement dans l'univers des 13 mères originelles. Puisque après tout, nous ne sommes pas sur She Hearts Wild pour rien. Wild, c'est la nature sauvage et authentique qui a toujours une attraction magnétique sur moi depuis vraiment mes plus jeunes années, où je partais observer la nature toute seule dans les forêts autour, en silence, pour faire l'observation de ce monde et de cette vie si particulière. Et c'est grâce à l'enseignement de cette mère que j'ai pu lier cette curiosité à mes bribes de souvenirs de vie antérieure initiatique, qu'on appelle les grands mystères. Donc ce conte a été un tournant dans ma vie, et c'est celui qui m'a amené à l'art chamanique, à la peinture intuitive et à l'art thérapie intégrative. J'ai donc vraiment hâte d'explorer cette première thématique de façon créative avec vous. J'ai hâte aussi de lire vos commentaires, vos réflexions personnelles et vos témoignages de vos propres relations avec les êtres de la nature, de vos découvertes, synchronicités et toutes ces sagesses apprises. Je vous rappelle que c'est pour tout cela que nous avons le groupe privé sur Signal et en plus la page sororité dans l'atelier lui-même. N'hésitez pas à laisser votre empreinte sur chacun d'eux. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et je vous dis à très vite pour la suite. Prenez bien soin de vous et de votre environnement. À bientôt.